Moi j'aime ça, j'aime être le capitaine du navire, j'aime être celui qui embarque des gens et qui leur dit allez on va faire quelque chose ensemble.
Bienvenue dans Inspiration Créative, je suis Kylian Talin.
Je suis Valentin Decker.
Et pendant une saison de 10 épisodes, nous partons à la rencontre de créateurs qui nous fascinent. Aujourd'hui, nous accueillons Alexis Michalik. Alexis Michalik est l'un des metteurs en scène de théâtre les plus talentueux du moment.
Parmi ses pièces les plus connues, Le Porteur d'Histoire, Intramuros ou encore Edmond. À son actif, il compte déjà 4 Molières. Alexis aime explorer de nouveaux horizons. Il est également acteur, réalisateur et scénariste. En janvier 2019, il a réalisé son premier film, Edmond. Et en septembre 2019, il a publié son premier livre, Loin. Accrochez-vous, l'interview avec Alexis est vraiment passionnante et son parcours est hyper inspirant.
Pour cet épisode, c'est NordVPN qui a accepté de nous soutenir. Un VPN, c'est un réseau privé sur lequel vous pouvez naviguer en toute tranquillité. Ça vous permet de protéger vos données. Et on a choisi cette solution parce que c'est celle qu'on utilise avec Valentin. Ça nous permet d'utiliser tous nos réseaux, d'utiliser Internet sans avoir à nous soucier de comment nos données sont traitées. Ils nous ont proposé pour nos auditeurs 70% de réduction sur leur offre. Assez intéressant. Vous pouvez le trouver sur nordvpn.com/inspiration. Bonne écoute.
Bonne écoute.
Bienvenue Alexis.
Merci.
On est très content de t'avoir parmi nous aujourd'hui.
Oui.
Moi, je t'ai découvert il y a à peu près un an. J'étais allé voir Le Porteur d'Histoire. Et je pense que pour moi, c'est la première fois que j'ai eu... Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais un choc théâtral.
Ouais.
J'ai trouvé ça vraiment fascinant. Je me suis dit que le théâtre, finalement, pouvait être bien meilleur que le cinéma, alors que j'avais l'habitude de voir des choses assez... parfois assez classiques, ou ce qu'on a l'habitude de voir au théâtre, à la Comédie Française ou autre. Et donc, je voulais revenir un peu sur cette histoire du porteur d'histoire. Comment tu l'as créé? Est-ce que ça a été... tu t'es dit tout de suite, ça va être quelque chose qui va marcher? Est-ce que ça a été quelque chose que tu as créé sur très longtemps? Quelle est son histoire à cette
l'histoire du porteur d'histoire.
Ouais, exactement.
Ben, moi, j'ai eu un peu ce genre de choc théâtral quand j'étais ado, j'étais allé voir les pièces de Simon McBurney, qui est un grand metteur en scène du subventionné, et où je me suis dit à peu près la même chose. Je me suis dit, c'est fou de pouvoir faire ça sur une salle de théâtre. Je pensais que c'était réservé au cinéma. Et en fait, tout simplement, parce qu'on utilise parfois au théâtre, on peut utiliser des artifices qui sont en général réservés au cinéma, comme la vidéo, comme la musique, comme les flashbacks, comme ces procédés un peu narratifs qu'on a l'habitude, nous, de voir dans des séries ou au cinéma. Ça m'est resté un peu en tête, et en même temps que Simon McBurney, j'ai été influencé par plein d'autres créateurs, type Ariane Nouchkin, Peter Brook, et tous ces créateurs de théâtre, ils m'apportent quelque chose et ils m'apportent des idées qu'un jour je réutilise. Comme la création, de toute façon, c'est jamais né de rien, il y a toujours des influences. Et ces influences-là, elles sont là au même titre que les films que j'ai vus et les séries que j'ai vues et les choses qu'on m'a racontées. Et donc, toute cette espèce de gloubi-boulga de culture se mélange dans notre esprit, et un jour, au moment où on a des choix artistiques à faire, on les ressort. Bon, c'est un petit préambule générique. Ensuite, pour Le Porteur d'Histoire, plus précisément, ce qui s'est passé, c'est que moi, déjà, j'ai commencé par jouer, j'ai commencé par être comédien. Ensuite, j'ai commencé à monter des spectacles, mais que je n'écrivais pas. Je créais des classiques revisités, le Mariage de Figaro, La Mégère apprivoisée, Roméo et Juliette. Et puis, parallèlement à ça, j'écrivais. Mais j'écrivais pour mon plaisir. J'écrivais des nouvelles, des romans, des scénarios, des trucs où je ne me disais pas que j'allais devenir écrivain, mais c'était une manière de... J'avais un besoin de raconter des histoires, même si ça n'allait pas avoir une suite, quoi. Un jour, cette histoire du porteur, c'est né quand j'étais en tournage. J'étais en tournage dans les Vosges, et on avait un peu de temps libre, et à un moment, je visite un petit cimetière de province, donc à plein fin, je crois que ça s'appelait le village. Et dans ce cimetière, il y avait quelques tombes abandonnées, et j'ai commencé à fantasmer sur, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans une tombe abandonnée, puisque quelqu'un, ça se trouve, aurait pu enterrer un trésor sans que personne le sache, dans un cercueil. Et qu'est-ce qui se passerait si un jour quelqu'un devait déterrer une tombe pour une raison ou une autre et trouver ce trésor? Et puis qu'est-ce que ce serait, ce trésor? Est-ce que ce serait juste des bijoux, ou est-ce que, un peu à la Monte Cristo, ou est-ce que ce serait autre chose? Et si c'était un trésor littéraire, c'est-à-dire un témoignage du passé? Et mon esprit a commencé à vagabonder un peu comme ça, en me disant, mais d'où ça viendrait? Vu que la tombe, elle date de 19e siècle maximum, on replongerait au 19e, et là on plongerait dans les carnets et on ouvrirait une nouvelle page de cette histoire. Et c'est resté comme ça, c'est sur cette journée-là, ce petit début est resté dans ma tête. et à mûri comme le font la plupart de mes histoires. En fait, c'est des graines que je mets dans un petit tiroir avec du terreau, et puis de temps en temps je les arrose, et puis j'ai réfléchi à ok, comment je pourrais reconstruire cette histoire, et je fais ça avec plusieurs histoires en même temps. Et donc, elles mûrissent à différents rythmes. Hein. Il y en a qui mettent 2 mois, il y en a qui mettent 1 an, il y en a qui mettent 10 ans à mûrir. Et puis, un jour, elles arrivent à maturation et je me dis, bon, bah là, ça y est, j'ai à peu près une histoire complète, quoi. Et à ce moment-là, je venais d'essayer de monter un chapeau de paille d'Italie qui était un classique, donc... Ouais,
sur lequel tu avais travaillé longtemps, je crois.
Sur lequel j'avais travaillé pendant 2 ans avec des acteurs, et on avait tous essayé d'apprendre un instrument de musique, et on a essayé de le monter, et puis ça n'a pas fonctionné pour des raisons financières, parce qu'on était trop nombreux et que les théâtres n'ont pas suivi. Et à ce moment-là, mon ami Benjamin Belcourt, qui avait produit un de mes spectacles et qui dirigeait à l'époque le Ciné 13 Théâtre, qui est aujourd'hui le Théâtre Le Pic, m'a dit, voilà, j'ai un festival de création contemporaine dans un mois, et j'ai un auteur qui vient de me lâcher, est-ce que tu veux bien me faire quelque chose? Et donc j'ai dit, bah écoute, moi j'ai jamais créé un spectacle issu de rien, mais ça fait longtemps que j'ai envie d'expérimenter un procédé de travail où on travaille au plateau, c'est-à-dire où j'essaie de créer une histoire, mais pas juste j'écris un texte et ensuite on le joue, mais je raconte cette histoire à mes comédiens, et ensuite on va vraiment écrire pendant qu'on répète, quoi.
Comme
dans Edmond, pas du tout. Dans Edmond, c'était complètement écrit. Edmond, okay. C'était complètement écrit à la table. Non, comme dans Intramuros, plutôt. Et donc, il me dit, bah écoute, c'est dans un mois, est-ce que tu as le temps de monter? C'était une forme courte, donc c'était un spectacle de 52 minutes. D'accord. Donc je dis, bah écoute, oui, ça fera à peu près la moitié de mon spectacle, je veux bien essayer. Et je suis allé...
Ça, c'était en quelle année?
Ça, c'était en 2011. Janvier 2011. Et je suis allé chercher 5 acteurs pour le porteur d'histoire, et je leur ai raconté à chacun l'histoire qu'on allait raconter. Et je leur ai dit, voilà, je vous raconte, je vous la laisse dans la tête, toi tu vas jouer tel rôle, et je vous donnerai un canevas juste avant de débarrer les répètes. Et je leur ai envoyé un canevas, une sorte de synopsis avec cette histoire qu'on allait raconter, qui était donc la première partie du porteur d'histoire. Et je leur ai dit, voilà, et maintenant on va répéter pendant 2 semaines. Et on a répété pendant 2 semaines de manière assez intense, en créant ces rôles, avec des improvisations dirigées, et puis pour les parties contemporaines principalement, et aussi des passages plus écrits, comme par exemple la scène de la calèche, enfin les scènes qui sont dans le passé, où là je leur donnais le texte en disant, bah voilà, ça va être ça, apprenez-le. Et ce mélange de scènes a créé cette première partie qu'on a fait donc très vite, et qu'on a joué 3 fois au Ciné 13 Théâtre pour ce festival, et en se disant, voilà, c'est un labo, on le joue 3 fois, on verra, si ça se passe bien, peut-être qu'il y aura un théâtre intéressé, mais bon, on y allait un peu à tâtons, puisque c'était une forme tellement particulière. C'était pas vraiment une comédie, c'était pas vraiment un drame, c'était quelque chose de spécial, quoi. C'était une forme particulière, quoi, qui était justement issue dans l'écriture de plein de choses différentes, de la BD au roman, au cinéma, au film d'Iñárritu et de Christopher Nolan, et dans la forme qui avait pompé l'espèce de... d'épure à Brooke, qui avait pompé le côté chorégraphie à Mnouchkine, et qui avait pompé pareil, des choses à Simon McBurney aussi, pour ce qui est des allers-retours temporels, quoi. Donc voilà, c'était une espèce d'ovni, un truc un peu à part, et on n'attendait pas plus que ça fonctionne. Et quand on a fait cette première partie, il y a eu plusieurs personnes qui nous ont dit, bon, c'est vachement bien, faites la version longue. Colette Nucci du Théâtre 13, Les Garçons des Béliers à Avignon. Et donc, on a créé la version longue, et celle-là, j'ai écrit la suite pendant 6 mois, entre janvier 2011 et juillet 2011, et on a fini par créer la version finale du spectacle à Avignon, dans la petite salle des Béliers, le 8 juillet 2011. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et après, petit à petit, ça a eu le succès que ça a encore aujourd'hui, et donc la pièce se joue toujours aujourd'hui. Et donc, ça a été une écriture un peu dans l'urgence, hein, une création un peu dans l'urgence. Et ce sentiment d'urgence, ce sentiment de création en très peu de temps, en 2 semaines, 3 semaines, d'avoir les acteurs et de leur dire, allez, on y va, on fait un spectacle et on fait une sorte de fuite en avant, c'est ce sentiment que j'ai un peu retranscrit dans Edmond. Puisque dans Edmond...
c'est pour ça que je te demandais ça avant, en fait. Tu parlais dans le film, comment il crée la pièce.
Voilà. Même si dans Edmond, il écrit tout seul.
Il écrit pas...
Moi, quand je parle d'écriture au plateau, je parle vraiment de prendre des comédiens et de leur dire, ben voilà, la scène, c'est à peu près ça. La scène, il se passe ça au début. Au début, tu rentres dans un bar et tu vas demander ton chemin et le patron va te donner une réponse imbitable. Et on commence à improviser, les acteurs commencent à proposer des choses et moi... Je suis actif dans la direction, je vais leur dire non, attends, l'acteur va rentrer, il va dire bonjour, je vais dire non, ne dis pas bonjour, recommence, il rentre et puis il va dire est-ce que je peux avoir un café? Je dis non, ne dis rien, recommence, donc il rentre, il dit rien, au bout d'un moment le patron lui dit on va bientôt fermer, et là c'est bien, donc je laisse faire, ou alors je lui dis bah dis plutôt ça.
Génial.
Et au fur et à mesure, la répétition de la scène fait que le texte se crée et ça prend en même temps. Et à la fin de la scène, on va enregistrer sur dictaphone. Et moi, le soir, je vais rentrer chez moi et mettre ça sur papier. Et à partir de là, je vais aussi réécrire et recouper et refaire et recréer, quoi. Et c'est comme ça que naît la scène. Donc ça, c'est une vraie création au plateau.
Et donc tu fais ce choix parce que tu as besoin d'une contrainte dans la création et tu sens que ça va t'apporter quelque chose ?
Non, c'est parce que c'est déjà... Moi, je suis à la fois metteur en scène, acteur et auteur. Donc, ces trois casquettes me permettent d'avoir une facilité pour cette méthode de travail. Puisque si j'étais pas du tout metteur en scène, je serais bien incapable d'arriver à concilier les deux. Si j'étais pas du tout acteur, je serais bien incapable d'arriver à me mettre à la place des comédiens. Là, le fait d'avoir ces plusieurs casquettes fait que c'est plus naturel pour moi de créer quelque chose en utilisant toutes les ressources à ma disposition. C'est comme si un compositeur maîtrisait plein d'instruments et donc il se dit puisque je maîtrise plein d'instruments, je vais écrire une œuvre avec tous ces instruments-là. Alors que s'il a aucune idée de comment fonctionne un violon, il va avoir un peu plus de mal à amener un violon, quoi. C'est une façon d'utiliser au mieux les capacités de tout le monde, surtout dans les scènes contemporaines, puisque c'est plus difficile évidemment de faire improviser des acteurs façon 19e siècle avec un langage un peu plus soutenu, ou littéraire en tout cas. C'est très agréable. Je fonctionne pas comme ça sur chaque pièce. Sur le Cercle des Illusionnistes, c'était écrit à la table. Sur Edmond, c'était moi qui ai écrit à la table. Sur Intramuros, là pour le coup, c'était entièrement fait au plateau. Et je pense sur la prochaine, ce sera écrit à la table. Donc ça dépend
de tes envies justement ou c'est
qu'est-ce ça dépend du spectacle.
D'accord.
Ça dépend du spectacle. Ça dépend de ce que j'ai envie de raconter dans le spectacle. Edmond par exemple, c'est un spectacle sur Cyrano, sur le verbe, sur les rimes. Donc c'est pas quelque chose qui s'improvise. C'est quelque chose qui s'écrit justement. C'est très écrit, c'est très structuré. Il y a beaucoup de personnages pour que ça se tienne. Il faut vraiment le prévoir en amont, quoi.
Et quand tu écris à la table, à quoi ça ressemble ton processus? Est-ce que tu te dis tous les jours j'écris tant d'heures ou
Non, en fait je ne fais pas qu'écrire. L'essentiel de mon temps c'est pas l'écriture, puisque je mets en scène aussi, puisque je joue aussi, donc je partage mon temps entre toutes ces activités. Donc j'ai pas de discipline de il faut que j'écrive tous les jours. Ensuite j'écris vite, donc si j'écrivais vraiment tous les jours j'écrirais trop. Et je dirais que une grosse part de ce qu'on appelle l'écriture ou la création, c'est pas l'acte d'écrire en soi, c'est l'imagination. Et cette imagination, en fait, elle fonctionne tout le temps. Ça, pour le coup, ça fonctionne tous les jours. Et le fait de laisser une œuvre respirer, de la mettre de côté, ça permet justement de laisser des idées arriver, en fait. Quand je vous parlais de mettre des choses dans des petits tiroirs et de les arroser, c'est ça, en fait, c'est que par exemple, je vais avoir une idée et puis je vais la mettre dans un tiroir et vraiment pendant un an, deux ans, trois ans, je vais y apporter des choses, quoi. Ce sera pas de l'écriture à la table et c'est seulement une fois que ça y est, j'ai ma structure et je me dis ça se tient que là vraiment on rentre dans une phase active d'écriture. Mon roman, par exemple, la phase de maturation a pris plusieurs années et c'est seulement une fois que j'ai eu le feu vert et que je me suis dit allez on y va. Que j'ai écrit, et ça a pris 3 ans de l'écrire, mais je faisais d'autres choses en même temps, quoi. Mais l'écriture en soi, pour le roman, oui, il faut une discipline, parce que la quantité de texte fait que il faut passer des heures devant son écran. Pour une pièce, ça peut aller très très vite.
Okay.
Donc j'ai pas ce truc de « allez, je me remets au travail
». Donc typiquement pour ce roman, qui va sortir là, à la rentrée en septembre, qui s'appelle Loin d'ailleurs. Tu t'astreignais du coup à avoir une certaine rigueur que tu n'avais pas dans tes pièces. T'écrivais sur un certain rythme chaque jour, comment ça se passait?
Oui, parce que bah, tout simplement en termes de volume horaire, en termes de nombre de mots, bah, j'ai passé plus de temps devant mon ordinateur pour le roman que pour une pièce. Quoi. Donc, et je savais que mon roman allait être une longue histoire, allait être un petit pavé, enfin il fait 640 pages. Et donc, puisque je savais que ça allait être long, que j'allais devoir passer du temps devant mon ordinateur. Or, le roman, c'est une écriture très solitaire par rapport au théâtre. Le théâtre, bah, on peut impliquer des comédiens, on peut impliquer du monde, il y a une équipe derrière, on crée ensemble, je ne suis pas tout seul à créer. Quoi. Le roman, en revanche, on est seul avec son écran, et une fois qu'on a fini d'écrire, ben, c'est fini. Le théâtre, une fois qu'on a fini d'écrire, c'est pas fini. Il y a les acteurs qui vont arriver, on va rentrer en phase de répétition. Quand on va être en répétition, on va se rendre compte qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, et on va réécrire encore. Puis on va mettre de la musique, puis on va mettre des lumières, enfin il y a 10 000 façons de rendre le spectacle meilleur une fois qu'il est fini d'écrire. Au roman, non. Quand on finit d'écrire son roman, ben, voilà, c'est fini, le processus est terminé. Donc c'est plus exigeant à l'étape de l'écriture, parce que quand je relis ma pièce et que je me dis bon, ça c'est un peu faible, je peux me dire on verra, on répète. Quand je relis mon roman, je me dis ça c'est un peu faible, il n'y a pas de deuxième étape, donc il faut que je réécrive. Donc oui, j'avais une discipline, mais comme il se trouve que bah, je ne fais pas que ça, je fais plein de choses en même temps, je profitais des moments où j'avais l'esprit libre pour pouvoir écrire ce roman. Donc par exemple, ça c'est quand je suis en tournage à l'autre bout du monde, et que j'ai des jours de libre, et que je sais que comme je suis à l'autre bout du monde, bah, je ne vais pas devoir aller voir mes spectacles, je ne vais pas devoir aller former des comédiens, il y a toutes les problématiques de la vie parisienne, on va dire, habituelles, ben, je ne les ai pas. Donc comme je suis à l'étranger, j'ai l'esprit libre, et du coup j'ai du temps, et du coup je peux écrire en fait. Donc l'essentiel de mon roman, je l'ai écrit quand je n'étais pas à Paris.
D'accord. Et donc le processus d'écriture de ce roman, mm-hmm. Comment tu l'as trouvé par rapport à une pièce? Est-ce que c'est plus dur, moins dur? Est-ce que c'est...
En fait, toute la partie imaginative, toute la partie création, c'est comme d'hab. C'est-à-dire que c'est peut-être plus long, c'est peut-être que voilà, ça a plus d'ampleur le roman, c'est comme une série mais à part ça, c'est le même procédé quoi. C'est-à-dire il y a un début, une fin, qu'est-ce qui se passe, une structure, un plan, tout ça c'est un peu similaire. Ensuite, dans l'écriture elle-même, c'est juste plus long et plus exigeant quoi. Puisque, bah, comme je vous disais, il n'y a que la phase d'écriture, il n'y a pas d'autres phases. Donc ça demandait plus de discipline et de temps. J'ai mis à peu près 3 ans à l'écrire, là où une pièce, je ne mettrais jamais 3 ans à écrire une pièce. Quoi. Donc c'est plus long, c'est plus besogneux, c'est plus solitaire. Le sentiment de l'avoir fini est aussi très gratifiant. Hein. Souvent, on me demande c'est quoi les différences entre jouer, mettre en scène et écrire. C'est quoi vos... Et je dis, bah, en fait, c'est 3 plaisirs très différents. Le plaisir du jeu, c'est un plaisir immédiat, un plaisir éphémère. C'est quand on est en train de jouer, on est heureux, en fait. On joue, il y a une connexion qui se fait avec le public ou dans un film, et on est juste bien de jouer. Un comédien, il est heureux quand il joue. Le plaisir de l'écriture, et c'est un plaisir a posteriori. On est heureux quand on a fini notre page, quand on a fini notre chapitre, quand on a fini notre livre. Parce que l'écriture en soi, d'être devant son ordinateur et d'écrire, c'est pas un plaisir. Enfin, c'est stimulant quand on trouve des idées et qu'on se dit « Ah, ça y est, ça coule ». Mais quand on est dans l'écriture, on est possédé. Quand on se dit « Ah, ça y est, je commence à avoir le fil, c'est génial, l'inspiration vient, c'est chouette ». Mais c'est pas du tout le même plaisir que quand on est en train de partager des choses sur un plateau avec des autres acteurs. Donc, en revanche, quand on a terminé la journée et qu'on ferme son ordinateur... Et qu'on sort boire un verre, le sentiment, oui, le sentiment d'être empli de quelque chose, il est formidable. Moi, quand j'ai fini ce roman que j'avais depuis des années en moi, cette espèce de sensation de on ne pourra jamais m'enlever ce que j'ai fait, c'est extraordinaire. Donc c'est un plaisir a posteriori, et même le plaisir continue parce que bah là le roman va sortir, les gens le lisent, donc ils nous disent ce qu'on en pense, etc. Donc il y a un retour sur ce qu'on a fait. Et contrairement à la pièce où, pour qu'une pièce se joue, ben, il y a des gens qui travaillent tout le temps, c'est-à-dire que les acteurs, en fait, ils jouent tous les soirs, donc il faut continuer à venir les voir, il faut continuer à les former, il faut continuer à suivre, il y a encore du travail, ben, le roman, une fois que c'est écrit, quoi. Il est sorti et c'est fait, c'est un objet, et il n'y a plus personne qui est censé continuer à travailler, c'est fait, c'est immuable. Et la mise en scène, c'est encore quelque chose qui est différent, puisque... La mise en scène, c'est l'amour des responsabilités, c'est l'amour du travail d'équipe, c'est l'amour d'être... Il faut avoir envie d'être un chef d'équipe et il faut aimer ça. C'est un plaisir différent. Il y a à la fois un peu le plaisir a posteriori, une fois qu'on a fini notre création, mais il y a aussi un plaisir de l'immédiat, parce que le plaisir des répétitions, il est évident.
Et tu t'épanouis dans ces trois types de plaisirs. Tu sens qu'ils t'apportent, toi, en tant que créateur, artiste, entrepreneur, par certains côtés. Est-ce que tu as l'impression que ces trois trucs t'apportent des choses différentes et tu as envie de continuer à les alimenter?
Non seulement ces trois trucs m'apportent des choses différentes, mais ces trois trucs se nourrissent entre eux. Ces plaisirs différents s'accumulent. Et moi, ça me permet de ne pas cultiver de frustration. Puisque quand j'ai fini d'écrire, je suis très content d'aller jouer. Et quand j'ai fini de jouer, eh ben, je suis très content de créer. Et quand je suis en création en tant que metteur en scène, je suis ravi. Je suis jamais aussi content que quand je suis sur un plateau en train de répéter ou de tourner.
Ouais. Tu disais tout à l'heure que parfois tu avais besoin de mettre certaines de tes œuvres un peu au repos. Au repos, mais dans les petits tiroirs avec le terreau fertile.
Ouais.
Pour que ça continue à mûrir. Est-ce que par exemple, sur une journée où tu vas être en train d'organiser des mises en scène avec des acteurs, des comédiens, tu vas à un moment terminer ta journée te dire du coup maintenant je vais passer sur un moment où j'écris parce que ça va
peut-être pas sur une journée. Non, la partie mise en scène quand on est en répétition ou quand on est en train de tourner un film, c'est extrêmement prenant quoi. C'est là à ce moment-là, c'est vraiment la phase active et dans cette phase active, on pense à rien d'autre quoi. Quand dans les deux mois où je vais créer un spectacle, je vais être en train de créer ce spectacle et puis c'est tout. J'ai pas de temps disponible pour penser à autre chose. La phase de terreau, c'est plus dans tout ce reste du temps qu'on a, parce qu'on a beaucoup de temps quand on est comédien ou quand on est créateur, on a du temps libre. Donc non, c'est plus entre deux spectacles. Là, moi, mon dernier spectacle que j'ai créé, c'est Intramuros, et c'était en février 2017. Donc ça fait déjà 2 ans et demi que le dernier spectacle. Bon, entre temps, j'ai fait un livre et un roman, mais un livre et un film. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le dernier spectacle remonte un peu. Donc toutes ces phases de temps de cerveau disponible, ben, elles sont là. Le roman, je l'ai terminé une fois que j'ai mis en boîte le film. Le film, je l'ai mis en boîte à l'été dernier. Et dès que j'ai fini le film, tout d'un coup, je me suis dit, bon, bah ça y est, ça y est, j'ai du temps de cerveau disponible, j'ai du temps, l'été commence. Souvent, j'écris bien l'été, moi. Parce que justement, de me retrouver dans un endroit avec ma tête disponible, je me dis, bon, bah, en fait, j'ai du temps pour moi, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire.
J'aime beaucoup la phrase, j'ai du temps de cerveau disponible. Je trouve ça très vrai. C'est la manière dont tu alloues
La création, c'est ça. Hein. On peut pas avoir de l'invention, de l'inventivité, on peut pas avoir de l'imagination si on n'a pas l'esprit libre.
T'as un peu répondu, mais j'allais te demander, est-ce que c'est toujours simple pour toi d'écrire? C'est toujours l'inspiration? Est-ce que ça coule toujours? Ou est-ce qu'il y a des moments où c'est plus dur? Et dans ces cas-là, est-ce que tu pousses et tu forces un peu parce que tu dis, ok, là j'ai un peu de mal et je vais faire autre chose, je vais me régénérer ou je vais lire ou...
Ben, le truc, c'est que, comme je vous disais, il y a plusieurs phases. Donc la phase d'inspiration et la phase d'écriture pure, c'est pas la même chose. Quand je pars en écriture, c'est qu'a priori j'ai déjà ma structure, j'ai déjà mon plan, voilà. Et en général, j'ai plutôt tendance, effectivement, si jamais je me dis bon là c'est pas terrible ce que je suis en train d'écrire, c'est pas grave, je vais aller au bout et ensuite je vais réécrire. Et ça, c'est ce que font tous les scénaristes. En fait, l'écriture
aussi, ils font beaucoup ça.
Alors,
aussi,
sûrement, moi je suis moins au fait des romanciers, mais en tout cas, l'écriture scénaristique, c'est vraiment V1, V2, V3, V4, V12. Donc il y a quelque chose de l'ordre de d'abord écrit, va au bout, et ensuite relis.
La magie, elle se fait dans l'édition après.
Ouais, elle se fait dans le. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est toujours plus facile de réécrire quelque chose que de s'arrêter. Quand on est face à la page blanche, il n'y a rien. Quand on a déjà un élément de... Après, on peut complètement couper complètement et repartir. Mais au moins, en fait, c'est important d'aller au bout pour pouvoir se rendre compte de l'ensemble. Tous les cas de figure me sont arrivés. J'ai déjà écrit des choses et ensuite je relis et je me dis, bon, bah, c'est beaucoup trop long tout ça. Il va falloir que je coupe. Bon, c'est compliqué de couper, machin, mais on y va. Et de version en version, on arrive à quelque chose. Inversement, il m'est arrivé aussi d'écrire un truc et de me dire, eh ben, ça se tient. Mais par contre, ça dure une heure, là, donc même pas, donc il faut que je nourrisse ça un peu plus, donc on cherche les endroits où on peut étoffer. Donc il y a toutes ces problématiques naissent, en fait, mais l'essentiel est d'aller au bout et ensuite de revenir sur ce qu'on a fait.
Ouais. Est-ce qu'en tant que créateur, il y a des choses qui te donnent de l'énergie et l'envie de créer, et d'autres qui, au contraire, t'en enlèvent dans ton quotidien? Est-ce que tu te dis, ça, il faut que j'essaie de l'éliminer de ma vie parce que ça me...
Quel genre de choses?
Par exemple, tu dis, tu parlais tout à l'heure du terreau fertile que tu essaies de mettre sur tes idées. Est-ce qu'il y a des choses que tu essaies de faire de plus en plus dans ton quotidien pour alimenter ça?
Pour alimenter le terreau? Non, je pense que c'est tout simple en fait. C'est que l'inspiration, elle naît de la curiosité. L'inspiration, elle naît des voyages. L'inspiration, elle naît des personnes qu'on rencontre. L'inspiration, elle naît de ce qu'on lit. Elle naît pas de quelqu'un qui reste dans sa chambre et qui ne fait rien. Hein, concrètement, pour avoir des idées, pour trouver des idées, eh ben, il faut être curieux. Il faut être curieux de tout. Il faut se laisser, il faut partir, il faut voyager, il faut s'inspirer, il faut rencontrer, il faut poser des questions. Moi, j'ai un truc tout simple, c'est que voilà, je rencontre déjà beaucoup de gens, tout le temps, souvent. Et quand je les rencontre, ben, j'ai besoin de poser des questions qui vont faire en sorte que je vais trouver ce qui est intéressant avec cette personne-là. Quelle est son histoire? C'est quoi la chose qu'il a racontée? Et chacun a des histoires à raconter. Et parfois, c'est vraiment une phrase que quelqu'un va raconter à un moment et on va se dire, tiens, c'est marrant, ça ferait un bon début d'histoire. Ou on est en train de lire un truc sur Internet et tout d'un coup, on apprend une anecdote et on fait, ah, c'est marrant, ça, c'est un bon début d'histoire. Et après, tout le monde a des idées dans la vie. C'est-à-dire que souvent, les gens disent, ah, bah, moi, j'ai une super idée, machin. Et oui, bien sûr, tout le monde a des idées tout le temps. Le plus difficile, c'est de s'accrocher à la bonne et surtout de faire en sorte que cette idée devienne un produit fini, une création, une pièce, un roman. C'est ça le plus dur, c'est le chemin. Les idées, elles sont partout, tout le temps. Tout le monde a des idées, tout le monde a de l'inspiration. Mais de savoir dire, cette idée est bonne et je vais m'y accrocher pendant 10 ans jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose, c'est ça qui est compliqué. Parce que le découragement, il guette, et parce que même quand on pitch des idées à quelqu'un, la première réponse de quelqu'un, ça va être la critique. Ça va être de dire, ouais, oui, bon, c'est pas mal. Mais de savoir s'accrocher et de dire, mais si cette idée, elle tient la route, et de la prendre, et de la garder avec soi, et de la développer jusqu'à ce que ça devienne quelque chose, c'est ça qui est le plus compliqué dans la création.
Et est-ce que ça a toujours été simple pour toi, de t'accrocher à une idée et de donner vie?
Je pense que j'ai la chance d'avoir un gros capital confiance, et que du coup, je me disais... Oui, j'ai jamais eu vraiment le problème d'un manque de confiance en soi qui est le problème principal pour un créateur, puisque c'est ça la création, c'est d'avoir l'audace de dire j'ai quelque chose à raconter et ça va être intéressant pour le reste du monde. C'est quand même, il faut avoir du culot pour dire ça, pour penser ça, vu que tout ce qui a été écrit, on peut vite être paralysé par ce qu'il y a autour de nous et de dire mais quelle légitimité je peux avoir dans ce monde, étant donné que tout a déjà été écrit, créé, montré, raconté, peint. Donc il faut une certaine dose d'ego ou de culot pour se lancer, que je pense j'avais, en tout cas, je ne sais pas si c'était un mécanisme de défense quand j'étais ado, mais en tout cas j'avais cette confiance. L'autre chose, c'est que j'ai toujours écrit, créé et construit, non pas en me disant « c'est génial ce que j'écris », mais en me disant « je vais le faire quoi qu'il arrive ». Et puis, une fois que je l'aurai fait, je vais en faire autre chose, et puis encore autre chose. Et puis, je vais avancer. En fait, en avançant, bah, au fur et à mesure, en créant, et bah, ça commence à ressembler à quelque chose, quoi. L'essentiel étant de continuer à avancer, l'essentiel étant de continuer à créer toujours. C'est ça le nerf de la création, c'est d'arriver à maintenir cette envie, d'arriver à continuer à puiser des choses qui font qu'on a quelque chose à raconter, quoi. Pas grave si ça marche pas, pas grave s'il y en a un qui se plante, pas grave s'il y en a un qui voit jamais le jour. Ce qui compte, c'est d'avancer.
C'est clair. Et on a souvent l'impression, je trouve, dans les médias, dans la société, que c'est le résultat d'un coup, quelqu'un va avoir du talent et sortir quelque chose. Et en fait, c'est souvent ce que tu dis, c'est après 15 ans à travailler, à s'entraîner, à progresser, à continuer à avancer, que là, il y a quelqu'un qui va dire, ah, il y a cette idée qui a mijoté, qui a avancé, qu'on a commencé à mettre sur pied. Et là, ça commence à émerger. Les gens se disent, oh, c'est...
Il y a un truc dont on parlait tout à l'heure. On parlait du porteur d'histoire. Et le porteur d'histoire, c'est la première pièce que j'ai créée. Et ça a été un succès. Mais avant le porteur d'histoire, j'en ai monté des classiques. Et j'ai tenté d'en monter qui ne sont jamais faites. Et j'ai écrit des romans et ceci et cela. J'avais déjà créé des choses. Et ce qui est sûr et certain aussi, c'est que le porteur d'histoire, ça, quand on l'a créé... Aucun d'entre nous, ni les acteurs, ni le producteur, ni moi-même, se disait « ça va être un carton ». Vraiment, c'était pas du tout le but, déjà, c'est un conte de fées. Enfin, ça nous a surpris plus que... Nous-mêmes, ça nous a surpris le succès de cette histoire, et continue de nous surprendre. Parce que le succès d'une pièce se mesure sur la durée. C'est pas immédiat. Un film, au bout de 3 semaines, on sait si c'est un carton ou pas. Nous, le porteur d'histoire, c'est seulement après 2 ans qu'il a débarqué à Paris, quoi. Donc, il y a 2 ans pendant lesquels, oui, ça joue, oui, on a des pourtours, mais c'est pas un carton, c'est pas quelque chose qui génère de l'argent, c'est pas. Et c'est seulement au fur et à mesure, aujourd'hui, effectivement, bon, bah voilà, ça joue encore à Paris.
Il y a 2 semaines.
Voilà, et c'est toujours plein, et on a toujours, on a passé les 2000 représentations. C'est un spectacle qui nous a dépassé, qui est devenu un peu culte, mais c'est quelque chose qui, qu'on ne pouvait pas prévoir du tout. Et d'ailleurs, je pense que si jamais on essaie de prévoir ça, si jamais on essaie de se dire il faut faire quelque chose pour que ce soit commercial, pour que ça marche, il y a des chances que ça ne marche pas parce qu'on voit les ficelles, on voit les intentions. Alors que ce qui compte, c'est d'essayer de faire quelque chose pour les bonnes raisons, pour des raisons de cette histoire va toucher des gens, cette histoire est importante, cette histoire, je la porte en moi et si elle me touche, elle touchera d'autres gens. Mais on n'aurait jamais imaginé que le porteur, ce serait ce succès-là. Jamais.
Qu'est-ce qui te pousse à créer, toi ? C'est quoi ton moteur ou ce qui te donne envie d'y aller tous les matins ?
Ben ça dépend, en fait, parce que l'envie de créer, elle évolue au fil des années. Je pense qu'un artiste qui ne connaît pas le succès du tout, ben, son envie, elle peut être là aussi. Elle peut être dans un truc de « je vais finir par y arriver ». Il y a une abnégation de « mes histoires vont finir par toucher des gens ».
Toi, c'était ça au début ?
Je pense qu'il y a une part de ça. En fait, de manière très simple, moi, je me dis « j'ai des histoires à transmettre ». Et ensuite on est plus ou moins confirmé par le public, par les gens qui le reçoivent, en se disant bon bah ça touche des gens donc je continue à écrire. Moi le porteur d'histoire, au moment où c'est sorti, les réactions, les retours des gens ont été tels que je me suis dit en fait ça peut intéresser un public ce que j'ai à raconter, donc je vais continuer à raconter des choses. Donc le cercle des illusionnistes, c'était le deuxième et c'était le plus dur à sortir parce que c'était comment je peux faire quelque chose qui va pas décevoir ceux qui ont aimé le porteur d'histoire, mais en même temps, évidemment, je vais pas refaire le même spectacle. Donc c'était un peu... Le deuxième, c'est le plus compliqué pour moi.
Est-ce qu'à ce moment-là, t'étais... Quand t'as voulu sortir le deuxième spectacle, quand tu travaillais dessus, est-ce que t'avais ce doute de dire « Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose qui va... »
Bien sûr.
Tenir la route,
ouais. Bah, au premier succès, vraiment, je me disais... au premier succès, donc le porteur, je me disais « Si je refais pas quelque chose, je vais rester paralysé par ce succès. Ouais. » Parce que comment est-ce qu'on arrive à refaire... ce qu'on a fait, quoi. C'est compliqué, quoi. Surtout qu'on doit refaire autre chose, qu'on doit surprendre, qu'on doit... Puis bon, après, une fois que c'est fait, on a réglé nos démons, et puis on est un peu libéré de ça. Et du coup, pourquoi on crée, c'est quoi le moteur ? Chacun a un moteur personnel. Il y a des gens qui créent parce qu'ils ont une histoire personnelle qui les a tellement marqués, atteints ou traumatisés, qu'il faut la transmettre, ou que le moyen d'exorciser cette histoire, c'est de la transmettre. Je pense que, moi, je suis un auteur qui raconte des choses plutôt feel good, mes spectacles sont plutôt bienveillants et positifs, et on en sort avec une énergie, et pas en étant déprimé, parce que je suis comme ça dans la vie. Et je dis souvent que je ne raconte pas ma vie parce qu'elle n'est pas très intéressante, parce que tout va bien, en fait. Et donc, quand on raconte quelque chose où tout va bien, on s'en fout. Donc, qu'est-ce que je raconte ? Je raconte des histoires dont je m'empare. Edmond Rostand, l'histoire d'Edmond Rostand, l'histoire du porteur, tout ça, c'est inventé, c'est pas moi, c'est complètement fictionnel. Néanmoins, même quand on se raconte pas, on parle quand même de soi, parce qu'on parle des choses qui nous touchent. Et si on analyse mes spectacles, ou mon roman, ou n'importe quoi que j'écris, on constate, si c'est sincère et si c'est touchant, que ces thématiques, il y a des thématiques qui reviennent. Et ces thématiques, en fait, elles viennent de mes propres angoisses ou blessures ou questionnements. Parce que, voilà, si quelqu'un a été atteint d'une longue maladie quand il était enfant, c'est quelque chose qui l'a marqué à jamais. Et ça va se retrouver dans ses écrits, que ce soit traité frontalement ou pas. Parfois, ça va être l'histoire d'un enfant qui a une longue maladie. Mais parfois, ça va être sous une autre forme. Ça va être quelqu'un qui a un démon qui le ronge, ça va être quelqu'un qui a survécu à quelque chose. Donc il y a toujours ces traces-là dans les écrits. Et je pense que, concrètement, l'écriture, elle vient souvent beaucoup plus d'une blessure que d'un bonheur.
Nous, on l'a vu dans le podcast qu'on a fait, là, tous ceux qui sont venus avant, on sentait qu'il y avait un moment de frustration qui a été un peu le déclencheur et l'accélérateur de leur carrière et de tout ce qu'ils ont fait après.
Bien sûr. C'est beaucoup plus intéressant parce que c'est beaucoup plus juste, parce qu'on a envie de... Quand le spectateur, il a envie de sentir des choses qui sont vraies, qui sont profondes, qui sont touchantes. On veut être ému, en fait. Donc ça vient toujours d'une blessure, entre guillemets. Mais la bonne nouvelle, c'est que la vie est pourvoyeuse de blessures. Donc à partir du moment où il y a une partie, ça c'est juste pour le moteur, c'est pas pour l'histoire. L'inspiration, c'est autre chose que le moteur. L'inspiration, elle peut venir de quelque chose de très positif, elle peut venir d'une situation très drôle, elle peut venir... Mais bon, même les situations très drôles, à la base, c'est des tragédies. Quand on prend Fedo, c'est extrêmement drôle, Fedo, mais quand on voit ce qui leur arrive vraiment, ils sont désespérés, ces acteurs. Enfin, les personnages, c'est horrible ce qui leur arrive. C'est pas du tout des situations qu'on aimerait avoir dans la vraie vie. Là, c'est drôle, parce que c'est traité de manière humoristique, mais c'est le vaudeville, si aussi ça nous arrive, on est dévasté. L'amant, le machin, ceci, cela, c'est horrible. Donc il y a l'inspiration, il y a l'idée, et puis il y a le moteur. Et ouais. Le moteur, effectivement, vient souvent de ses failles et de ses blessures et de ça, mais on le traite d'une manière. Ça peut être drôle, ça peut être triste, ça peut être émouvant, ça peut être chacun sa manière.
T'as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure sur les idées, qui était on en a tous des idées. Ce qui compte, c'est d'arriver à repérer la bonne et de l'exécuter et de la tirer et de la mettre en œuvre. Est-ce que toi, tu as une façon de choisir les idées, de te dire une sorte de, je sais pas, de scanner à idées, Alexis Michalik, qui dit celle-là, je pense qu'il y a quelque chose qui me parle et qui va parler à d'autres.
Oui, bien sûr, mais c'est juste instinctif en fait.
Okay.
Il y a pas d'analyse. Il y a juste quelque chose de. À partir du moment où ça me reste en tête, c'est que ça me reste en tête en fait. C'est que j'arrive pas à m'en débarrasser. C'est que quand j'y reprends, je me dis ah tiens, c'est vraiment super. J'en ai toujours plusieurs évidemment, il y a celles qui ressortent et qui finissent par exister, et puis il y a toutes celles qui sont encore dans un tiroir, et puis il y a le pitch aussi, puisque j'en parle beaucoup, donc je raconte souvent aux gens autour de moi, aux amis, à tout ça, je leur dis, ils me disent qu'est-ce que t'as en tête, et je dis tiens, je peux te raconter un truc, et tu me dis ce que t'en penses, et puis je commence à raconter, et puis en fait en racontant moi-même je construis, et je vois les réactions de la personne en face, et je vois les défauts, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut... Et je vois si à la fin de mon pitch la personne me dit ouais c'est pas mal, ou si elle me dit c'est génial, et du coup forcément ça joue aussi dans ce que je vais choisir de développer. Et ça m'arrive souvent de me retrouver avec un peu deux projets possibles, et parfois ça se fait sur une discussion, je suis avec des amis ou je suis avec un pro ou un prod ou quoi, et je vais dire bon voilà, j'hésite entre deux trucs, je te pitch les deux et tu me dis ce que t'en penses, et puis je pitch les deux, et puis si tout le monde fait ah non mais faut que tu racontes cette histoire là, je fais bon ok, on va raconter cette histoire là, c'est plus juste. Parfois c'est aussi ce que je ressens moi sur le moment, c'est à dire que l'état influence forcément comme on disait, ses moteurs quoi. Donc par exemple si je suis extrêmement heureux, joyeux, que je traverse une période où je m'amuse énormément, je vais peut-être avoir envie d'écrire une comédie, quelque chose de léger, parce que c'est un peu mon état du moment. Et au contraire, si je traverse un drame personnel, forcément ça va être plus difficile d'écrire une comédie, et je vais trouver plutôt un moteur pour écrire quelque chose de plus profond et de plus intime. Donc c'est un mélange entre ce qu'on vit nous et ce qu'attendent les autres. Mais je pense que moi personnellement, je m'efforce toujours de privilégier l'attente d'un public, c'est-à-dire que je vais jamais créer quelque chose uniquement pour mon plaisir personnel.
Tu penses beaucoup à ton public ?
Je dis mon public, c'est un peu grandiloquent de dire ça, mais le public en général, de toute façon, moi je fais un théâtre qui est populaire, donc le but c'est que je laisse pas des gens à la porte quoi. J'ai pas envie de faire quelque chose qui est juste pour une niche de spectateurs, ce que d'autres personnes peuvent faire très bien, et c'est tant mieux. Moi je suis pour la coexistence de tous les théâtres, mais moi personnellement j'aime que dans ma salle de théâtre il y ait des gens qui soient jamais allés au théâtre de leur vie, et des gens qui ont l'habitude d'aller au théâtre, et que les deux puissent communier et apprécier en même temps ce spectacle. C'est la définition d'un théâtre populaire.
Est-ce qu'il faut être fou pour être écrivain?
Ouais, c'est la phrase d'Edmond, auteur. Il faut avoir une part de folie, je pense. Mais c'est marrant parce que cette folie, moi je m'en rends pas compte, mais je l'analyse après coup, parce que aujourd'hui, je suis encore un jeune écrivain, mais j'approche la quarantaine, donc je suis plus ado quoi. Et quand je discute avec des ados qui sont en train de se poser la question de qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, etc., je me rends compte effectivement que c'est il y a une forme de folie, il y a une forme d'inconscience que de se dire je me lance dans un métier ou dans un
ego,
ouais ou dans un en tout cas dans un secteur où ça ne dépend que de moi, et il y a tellement de variables. Effectivement, on a tendance à se dire c'est quand même plus rassurant de se dire je vais faire des études et je vais trouver un métier, et puis ça va, il y a quelque chose de plus logique en fait. Donc il y a un illogisme à se dire non, moi je vais me lancer complètement et je vais me suffire à moi-même. Moi j'ai commencé en étant comédien, j'ai commencé pas en étant auteur, je me suis dit, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon j'aurais pas gagné ma vie avant longtemps, et je pense que c'est important d'avoir, parce que cette indépendance financière que j'avais en étant comédien, et comédien c'est quand même pas non plus le truc le plus stable du monde, me permettait d'écrire et de créer et de faire des spectacles, etc. Et heureusement, parce que moi, je viens d'un milieu de classe moyenne et ça aurait été difficile de survivre sans ça, quoi.
Est-ce qu'il y a une règle d'or, un peu, un principe que depuis ton plus jeune âge, tu te dis, j'ai envie d'appliquer toujours pour continuer mon chemin et avancer?
Non, pas vraiment, si ce n'est... non, mais il y a une rigueur, une discipline de travail, ça c'est sûr et certain, qui a toujours été payante. Je pense que quand on avance, on tire les bilans au fur et à mesure des choix qu'on a faits. Et on se dit, bon, j'ai eu raison de faire ça, ou... Et c'est rare d'avoir l'honnêteté de dire « je me suis trompé, j'aurais pu faire ça autrement ». C'est ça le plus dur, en fait. Je pense que le grand problème de l'humanité vient que l'homme, au sens large, préférerait avoir une vie misérable que d'admettre qu'il a eu tort. À partir du moment où on est capable d'admettre qu'on a eu tort et de se dire « je peux faire les choses autrement, je peux changer », tout va bien se passer. Et le fait est que voilà, moi j'ai toujours une discipline de travail, j'ai toujours créé des spectacles, j'ai toujours créé, j'ai toujours écrit, j'ai toujours mis des choses en mouvement, malgré les critiques évidentes ou le scepticisme, ou quand on commence évidemment, on travaille pas avec des gens qui sont ultra professionnels, et puis donc il y a des énergies un peu négatives, et puis c'est la vie, quoi. Et puis j'en ai eu des galères, j'en ai eu des tonnes forcément. Les jeunes compagnies, on est toujours soumis à tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Donc il y a un cap à garder, en fait. Il y a un cap à garder de c'est pas grave, je vais pas m'énerver, je vais terminer ce que j'ai à faire, et puis ensuite je vais faire autre chose, et un autre projet, et encore un autre projet, et encore un autre projet. Et puis un jour, sans presque qu'on se soit rendu compte, on est devenu professionnel, et puis on avance, et des énergies négatives qu'on avait pu croiser il y a quelques années, en fait, eux, ils sont un peu sortis de la route, ou ils ont changé. Ils ont changé de méthodologie, parce qu'au final ça finit toujours par payer d'être bienveillant, d'être honnête, d'être, de travailler, d'en faire plus que ce qu'on attend. Cette espèce de code éthique et ce code de travail et cette discipline et cette rigueur font que à mesure que les années passent, on se retourne et on se dit je suis bien content d'avoir fait ça, parce que du coup aujourd'hui j'ai rien à me reprocher et je peux continuer à créer l'esprit libre. Donc c'est un peu bateau comme réponse, mais c'est vrai, il y a quelque chose de cet ordre là qui fait que on se construit et en tant que créateur et en tant qu'être humain. On a besoin effectivement d'avoir une part de soi qui est allouée au travail et une part de soi qui est allouée à sa propre vie, parce que si on ne privilégie que l'un ou que l'autre, on est forcément malheureux. Voilà, cette discipline, cette rigueur, ce besoin impérieux d'être toujours irréprochable, et que j'ai essayé d'avoir dès le début, je suis heureux d'avoir fait ces choix-là au début et de pas avoir pris un autre choix.
Ouais, toujours faire de son mieux.
Toujours faire de son mieux, c'est Cyrano qui a cette phrase que j'adore. Cyrano et Le Bray lui dit, mais où te mènera la façon dont tu vis, quel système est le tien? Et Cyrano répond, j'errais dans un méandre, j'avais trop de parties trop difficiles à prendre, j'ai pris lequel, mais le plus simple et de beaucoup, j'ai décidé d'être admirable en tout pour tout.
C'est excellent.
En fait, c'est à la fois bateau et ça l'est pas, je trouve. Parce que quand tu regardes les artistes de l'extérieur, si tu te mets dans une position où tu regardes juste ce qu'ils font, tu te dis, mais en fait, ils ont une image de un peu rockstar, déjanté, délabré, et nous, enfin, on le voit et tu le répètes, mais c'est tout l'inverse, c'est rigoureux, c'est travail, c'est...
Ceux qui durent, en tout cas, c'est sûr et certain. Ouais,
tu mets 15 ans à sortir quelque chose de bien. Et c'est trop bien ce que tu dis. Enfin...
Mais tout le monde, tous les artistes, tous les créateurs, évidemment, tous les créateurs qui ont duré, c'est des bosseurs. Il n'y a pas de mystère.
Et tu vois aujourd'hui, toi, dans ton travail, dans ton quotidien, une marge de progression, tu la projettes ou c'est plus le temps qui fait son effet?
Je vois pas ça comme une progression. C'est comme une évolution, en fait. L'essentiel dans la création, c'est de ne pas s'enfermer, c'est de ne pas refaire la même chose. L'essentiel dans la création, c'est d'aller vers des choses qui sont hors de notre zone de confort. C'est d'arriver à continuer à créer continuellement et ne pas se répéter et se réinventer. Et c'est le plus dur. Donc, je le vois, je vois les possibilités.
Et c'est pour ça que tu fais un film, un roman? Oui. C'est pour une autre manière de t'exprimer, de tester autre chose.
Oui, c'est pour, et pour couvrir un spectre large et pour ne pas avoir de frustration, pour ne pas me dire ah là là j'aurais aimé en fait devenir réalisateur dans 20 ans ou ah là là j'aurais aimé parce que toutes ces frustrations, ça c'est des moi personnellement je vis mal avec le côté ah là là j'ai jamais fait ça, ah c'est vrai. Moi en général vraiment le premier moment où je me dis ah j'aurais dû faire ça, je me dis bon allez fais-le. Fais-le maintenant, vas-y, ah, j'aurais bien aimé aller en Australie, bon allez, prends tes billets, c'est bon, agis, fais les choses vite, résous les problèmes en fait. Et un metteur en scène, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Un metteur en scène, c'est quelqu'un, on lui propose un tableau et il dit, alors qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je peux améliorer là-dedans? Et qu'est-ce qui va bien et que je dois laisser tel quel? Et donc il dit, bon voilà, on va changer ça, on va changer ça, on va changer ça, et hop, ça résout le problème. Et le travail du metteur en scène, c'est qu'on lui donne des problèmes tous les jours. Bon, bah, y a un problème, il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas assez de machin, la musique est trop forte, machin. Et lui, il résout tous ces problèmes-là. Et ça, c'est quelque chose que je porte en moi. Ma vie, c'est résoudre des problèmes. C'est me dire, bon, bah, là, comment je fais pour que ça aille mieux, pour résoudre ça, pour que ça avance mieux, pour que ça glisse mieux. C'est ce que je suis, quoi.
Et par exemple, si on prend donc, des moments où tu es allé creuser vers d'autres formes d'art, par exemple le tournage d'Edmond, le premier jour où tu es arrivé sur le lieu du tournage, est-ce que tu t'appréhendais ce moment où tu savais comment tu allais te comporter, tu te sentais débutant, ou tu disais je vais être encore une fois metteur en scène à résoudre des problèmes?
Un peu tout ça en même temps, mais bon, déjà j'avais fait 3 courts-métrages avant de faire Edmond, et des courts-métrages qui étaient bien produits, donc avec des vraies équipes, etc. Donc le premier jour où je suis arrivé sur mon premier court-métrage, là j'avais cette espèce d'appréhension de je sais pas comment je vais faire, mais évidemment, heureusement, j'arrive en étant déjà comédien et en ayant déjà fait des mises en scène au théâtre, en ayant déjà écrit, déjà raconté des histoires. Tout ça, c'est quand même des choses qui aident à être réalisateur. Ensuite, moi, j'ai une obsession du temps. Et donc, vraiment, tous les jours, mon obsession, c'était de terminer à l'heure et de rentrer tous les plans que j'avais à rentrer. Donc, j'ai quelque chose, pour avoir été comédien et avoir été beaucoup sur les tournages, ben, j'ai observé et je vois quand un réalisateur se fait bouffer par le temps, et je vois à quel point c'est primordial sur un tournage, à quel point rendre son plateau à l'heure, c'est la fonction du réalisateur, quoi. Ça devrait être son obsession, et c'est pas toujours l'obsession de tous les réalisateurs. Il y en a beaucoup qui se rendent pas compte à quel point c'est important. Et voilà, donc moi j'ai cette obsession du rythme, et donc c'était mon truc. Dès le premier jour, il a fallu que je cravache parce que je voulais absolument terminer en temps et en heure. Et une fois que j'ai terminé mon premier jour et que je me suis rendu compte de la marge que j'avais, déjà pour le lendemain, je me disais, bon bah ça va rentrer en fait. Ça va rentrer, je vais pas avoir des problèmes de retard. Donc si j'ai pas de problème de retard, je peux juste avoir mon espace de création.
Très bien. Et voilà. si on peut essayer de se plonger un peu avec toi sur ce premier jour de tournage? Comment ça se passe? Toi, t'es là derrière la caméra, tu dis on t'organise un peu.
Je suis là derrière le combo, mais bon, là en l'occurrence Edmond, je connaissais quand même bien le sujet vu que j'avais déjà créé la pièce, etc. Puis je portais depuis des années. Non, bah oui, quand on est réalisateur, en fait, en gros, on choisit ses plans. Donc on dit, bah voilà, on va commencer par ce plan-là, puis ce plan-là. Bon, là, on va faire un plan séquence. Bon, et puis on dirige les acteurs. Mais il y a plein d'endroits où, en fait, bah, le travail de préparation en amont fait que ça gagne du temps. D'avoir fait un storyboard ou d'avoir imaginé un peu son découpage, bon bah déjà on a fait son travail. D'avoir répété déjà en amont avec les acteurs, bon bah on n'a pas le problème de ils connaissent pas leur texte, on perd du temps. Et puis ensuite, de prise en prise, on revient, on peaufine les détails, bon ça va pas, ça je trouve que ce plan là il faut être plus serré, ça il faudra un mouvement différent, tel acteur essaie de le dire plus vite, toi sois plus dans l'émotion, et en fait de plan en plan on arrive à avoir quelque chose qui nous convient, ok on regarde l'heure, bon. C'est bon, on passe à la suite, allez, on passe au plan d'après, au plan d'après, au plan d'après, au plan d'après, et puis la journée est finie.
Excellent. Ouais.
Est-ce que t'as des peurs en tant qu'artiste, créateur?
Oui, j'ai des peurs, mais elles sont raisonnables. Je suis pas quelqu'un de bouffé par l'angoisse, quoi. Vraiment, j'ai tendance à me dire... en fait, comme je fais de mon mieux, quoi. Toujours, je fais de mon mieux. Et donc, à partir du moment où on fait de son mieux... Après, ça marche ou ça marche pas. Moi, j'ai fait de mon mieux. On aime ou on n'aime pas, moi, j'ai fait de mon mieux. Concrètement, je sais que je n'ai rien à me reprocher en termes d'investissement et en termes de ce que j'ai essayé de construire. Ce que je fais est toujours sensé. C'est-à-dire que quand on me dit « mais pourquoi est-ce qu'il y a ça ?», je peux répondre. Bah, « il y a ça parce qu'à ce moment-là, je raconte ça. » Et donc, ça marche pas, bon évidemment ça va m'atteindre, ça marche, ben je suis content, mais dans les deux cas j'essaie d'avoir une distance et de me dire quoi qu'il arrive j'ai fait de mon mieux, maintenant ça existe, c'est l'essentiel, l'essentiel c'est que ce projet existe, maintenant je vais passer au suivant et puis voilà. Donc oui j'ai des peurs, j'ai des angoisses, mais mes peurs, elles sont, mes peurs les plus profondes, elles sont nourries par ce que je ne maîtrise pas. Ce que je maîtrise, je sais que je vais arriver au bout quoi. Ce que je ne maîtrise pas, en revanche, bah forcément, ça peut me flinguer une scène, ça peut me flinguer un emploi du temps, un acteur qui tombe malade, un problème technique qui fait que bah, ce que j'ai fait sur la journée, ça compte pas. Enfin, ça c'est mon angoisse. Un problème de météo, que sais-je, ça c'est une angoisse. Après le reste, bon bah c'est la vie quoi.
Et ces peurs ont évolué à travers le temps. Tu dirais qu'au début, avant de...
En fait, je pense que... Encore une fois, vraiment, je pense que j'avais vraiment beaucoup de confiance en moi, mais dès l'adolescence, quoi. Il y avait un côté où... c'est de l'ego, hein, c'est sûr, hein, mais, et c'est une chance énorme d'avoir ça, parce que c'est la vraie problématique des créateurs, c'est leur manque de confiance en soi. Moi, j'avoue, ado, je me disais déjà, allez, je vais faire des trucs et ça va être super. Bon. Donc j'avais pas ces grosses angoisses liées à la création. J'avais une grosse angoisse, et c'est marrant parce que je pense que j'étais vraiment beaucoup plus angoissé quand j'étais que comédien, et que j'avais l'angoisse de ne pas travailler. J'avais l'angoisse, parce qu'on dépend du désir de l'autre encore une fois, et encore une fois c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas en fait. À partir du moment où j'ai commencé à monter des spectacles, et c'est arrivé très tôt, mon premier spectacle j'avais 22 ans, ça m'a libéré d'une angoisse. Disons que la mégère à peu près apprivoisée, ça a été le premier spectacle qui a vraiment connu une exploitation commerciale et où on gagnait notre vie, on a joué pendant 3 ans avec. Et ben, dès l'instant où la mégère a été créée, je me suis dit, en fait, ça va, je vais pouvoir être maître de ma vie et de ma création, je vais pouvoir jouer dans mes spectacles au besoin, je vais pouvoir créer, ça va aller. Ma grosse angoisse, c'était de pas travailler et de pas avoir de boulot, et quand on est comédien, c'est l'angoisse numéro un, quoi. Donc, à partir du moment où je maîtrisais les méandres, je savais qu'au final, ça ne se résumait qu'à une chose, à la quantité de travail que j'allais fournir.
Donc, toute ta vie, en fait, c'était une recherche du contrôle dans ce que tu faisais, quoi, au final. Peut-être un peu fort de dire ça, mais...
Globalement, dans ma vie, moi, je suis quelqu'un qui contrôle vraiment à peu près tout, qui anticipe énormément. Ouais. Ça ne veut pas dire que je me laisse pas vivre, mais j'anticipe beaucoup, quoi.
Mais c'est souvent en anticipant, en étant organisé, que justement tu as du temps après.
Exactement. Vivre, mais... Puisque mon obsession, encore une fois, c'est de gagner du temps. Que ce soit dans le travail ou dans la vie, j'ai une sorte de hyper conscience de la mort. Je sais que ça arrive. Et donc, le but, c'est de faire le maximum de choses, que ce soit du travail et des créations, ou de me libérer du temps, ou de fonder une famille, ou de... Tout ça, c'est des choses que j'essaie de visualiser énormément dans le temps, quoi. J'ai un rapport au temps très amical, parce que, en fait, je me rends compte que, et c'est quelque chose que je dis souvent à mes amis, etc., c'est que le temps peut être une force incroyablement destructrice ou incroyablement constructive. Parce que on peut se faire paralyser par le temps qui passe. On peut se dire, mon Dieu, mais les années passent et j'en suis toujours là. Et c'est horrible. Ou on peut se dire... Eh ben, j'ai un projet et je sais que ça va prendre du temps. Mais si je le commence maintenant et que je commence à y travailler et que je mets une petite pierre chaque jour, un jour il sera fini. Et le temps va être mon allié dans ce cas. Moi, mon roman, c'est ça. J'ai un projet, je sais pas quand il sera fini. Mais si je le commence, un jour il sera fini. Et le jour où il est fini, je me dis pas, oh mon Dieu, j'ai 36 ans et j'ai écrit qu'un seul roman. Je me dis, eh ben, je l'ai fait. Et je l'ai fait grâce au temps. Et on dit que les centenaires, les gens qui vivent le plus longtemps, c'est ceux qui ont toujours des projets. Et les gens qui ont des projets, en fait, c'est les gens qui considèrent que le temps est leur allié.
Je suis entièrement d'accord avec ça. T'as un truc que tu expliquais tout à l'heure qui est assez différent par rapport à d'autres milieux artistiques qu'on a pu rencontrer jusque-là. C'est que dans le théâtre, tu crées pas seulement pour toi, mais tu crées pour les autres, les gens qui vont jouer dans tes pièces. Comment tu abordes ça dans ton processus créatif?
Disons que, étant acteur moi-même, j'ai conscience de ce qui est agréable à jouer, j'ai conscience de ce que c'est que d'avoir un rôle nourri. C'est un peu d'ailleurs ce qui a forgé l'ensemble de mes spectacles, puisque ça c'est une constante, et je pense que je ne dérogerai pas à mesure, c'est qu'il n'y a pas de petit rôle. Dans tous mes spectacles, c'est des spectacles de troupe, et tous les acteurs ont un rôle qui est nourri et qui est équivalent à celui de son voisin. Il n'y a pas de frustration de « je joue le valet qui a une scène, tandis que lui, il a un rôle incroyable ». Tout le monde a des choses à défendre dans la durée, et ça vient, je pense, du fait que je suis comédien et que je me dis « c'est horrible d'avoir... » D'une part, ça vient de ça, c'est horrible d'avoir un petit rôle sur un truc et d'avoir la frustration alors que tu joues ton métier. Et d'autre part, je sais, je connais le comédien, je sais qu'un comédien, il est heureux quand il joue. Plus on lui donne des choses à faire, plus il est heureux. Et quand je voyais des spectacles, moi, à l'époque, en tant que spectateur, et que je voyais des troupes, et que je me disais, mais comment on peut sous-employer un comédien à ce point ? C'est-à-dire que je voyais des mecs qui rentraient pour rien du tout.
Pour trois lignes
et qui ressortaient. Trois lignes et qui ressortaient, je me disais, mais quelle idée, en fait ? Pourquoi est-ce que, alors que ça coûte pas moins cher.
Ouais, ça, il est payé pareil.
Il vient pour dire trois lignes. Quel intérêt, en fait, d'avoir un comédien qui peut faire des choses alors que le spectacle pourrait être riche et nourri. Bon, oui, c'est vrai, mais après, en vrai, ben, c'est à l'écriture que ça se décide. Or, je maîtrise l'écriture, donc je peux complètement me permettre de me dire, eh ben voilà, on va donner des rôles à tout le monde, quoi.
Finalement, cette triple casquette te permet de jouer avec pas mal de choses qui sont super complémentaires.
Bien sûr.
Quelle trace t'aimerais laisser plus tard ?
Alors ça, je m'en fous complètement. Ouais, enfin, plus tard, je maîtrise pas. Donc tout ce que je maîtrise, c'est l'instant. Une fois que ce sera fini, je serai plus là, quoi. Donc
c'est pas ce qui te motive.
C'est même pas ce qui me motive, c'est que ça ne traverse pas mon esprit, quoi.
Et quand tu crées, t'essayes de transmettre quand même quelque chose. C'est quoi ? C'est avant tout une émotion, le plaisir des gens de découvrir.
Ça dépend de ce que je crée. Il y a des spectacles où je me dis, bon, bah là, vraiment, ils vont chialer leur race. Il y a des spectacles où je me dis, bah là, c'est très drôle. Ça dépend du spectacle. Ça dépend de ce que j'ai envie de créer. Ça dépend. Il y a rarement un message. En tout cas, j'attaque pas mon spectacle en me disant, voilà le message que je veux donner. C'est une fois que j'ai fini que je me dis, bon, bah, ça parle de ça, en fait. Moi, je suis traversé par des histoires. Je construis mon histoire. Et vraiment, une fois que j'ai fini mon histoire, je me dis, ah, ok, en fait, c'est ça que je veux raconter dans mon histoire.
Mais c'est pas conscient, ça.
Peut-être à un petit niveau, mais en tout cas, c'est pas le moteur, quoi. C'est pas le début, quoi. C'est vraiment quand on termine qu'on se dit, ah, en fait, ça parle de ça. En fait, ça aborde ce sujet-là. En fait, c'est ça que ça dit.
On arrive un peu à la fin de ce podcast. Mm-hmm. C'était un plaisir de discuter avec toi.
Cool.
Il y a deux questions qu'on aimerait te poser pour terminer. La première, c'est pour tous les gens qui sont des jeunes créateurs, comme tu as pu l'être il y a une vingtaine d'années, et que tu pensais à la suite. Mm-hmm. Quel conseil tu donnerais ?
Ben, de créer, de construire, de se renseigner, d'être curieux, d'aller voir tout ce qu'ils peuvent voir, de lire, de sortir de leur zone de confort, de voyager, de parler aux gens, de s'intéresser, d'être curieux, de noter, de prendre des notes, de laisser l'imagination se construire, et puis de créer, parce que c'est le plus dur, en fait. Le plus dur, c'est de se dire, allez, je me lance, c'est de se dire, allez, je commence à écrire, c'est de se dire, allez, je termine mon roman, je termine mon scénario, je termine ma pièce, et puis de réécrire, et puis de passer au projet suivant. Parce que de toute façon, ça sert à rien de rester bloqué sur un projet pendant 10 ans. Il faut continuer à en faire d'autres, il faut avancer. Moi, je sais que quand j'ai commencé, et quand j'avais 15-16 ans et que je commençais à écrire, j'en écrivais à la pelle des scénarios. Et quand je les écrivais, évidemment, étant la personne qu'on est et ayant l'âge qu'on a, je me disais, ça se tient. Évidemment que les années passent et qu'on regarde en arrière et qu'on se dit, bon, c'était pas mal, mais quand même, j'étais un peu vert, quoi. Et en fait, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avoir continué à écrire. Aujourd'hui, je me dis pas, mon Dieu, mais quel dommage d'avoir écrit 10 scénarios quand j'étais au lycée. 10 scénarios pour rien. Non, c'était pas pour rien, au contraire, ils m'ont permis de construire mon style d'aujourd'hui, ils m'ont permis de m'apprendre, de travailler, de me tromper, de continuer, d'évoluer. C'est jamais perdu, en fait. Et créer n'est jamais perdu. Faut juste pas qu'on se dise, du premier coup, ça va marcher, sinon j'arrête. Il faut juste qu'on se dise, l'essentiel, c'est de continuer à créer, quoi.
Créer n'est jamais perdu. Moi, j'aime.
Non, mais c'est super. Très bien. Et la dernière question qui n'en est pas vraiment une, c'est on a toujours un petit cadeau à la fin à nos invités.
Oh.
Donc, est-ce que t'es plutôt BD ou livre ?
Je suis les deux. J'aime beaucoup la BD, moi. J'aime beaucoup les BD. J'ai été nourri à la BD. Et puis, livre, ben là, c'est la fin de l'été, donc c'est fini. Je ne lirai pas avant de repartir en vacances.
C'est vrai.
Ouais, mais c'est super. Non, j'aime les deux. J'aime les bouquins et les BD. Pourquoi? Non, c'est
on
quoi?
Peut offrir les deux. Allez. Oh,
c'est trop mignon.
Donc, ben, je commence par la BD.
Alors, qu'est-ce que c'est?
Peut-être que tu l'as déjà lu. C'est Guy Delisle.
Roger Bierman, oui, absolument. Je me demande si je ne l'ai pas. Il va à Pyongyang, c'est ça?
Non.
Ah non, c'est celui-là.
C'est en Birmanie cette fois.
Bah, c'est parfait, je ne l'ai pas.
C'est, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Guy Delisle qui écrit des chroniques sur.
Qui fait, je crois, des dessins animés, il me semble, non?
Ouais.
Qui fait des dessins animés et qui raconte un peu ses expériences au bout du monde.
Exactement.
Et ben, c'est parfait. Je suis ravi. Je suis ravi
de voir
Birman. Et deuxième cadeau, alors là, c'est vraiment.
Il en profite, hein. Emballé.
Non, moi,
j'espère que tu ne l'as pas lu.
Et ben, je sais pas. Au pire, si je l'ai lu, je vous le rends. Si je l'ai à la maison, je vous le rends. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un folio.
C'est un livre que j'ai
folio classique. Alors, on l'a beaucoup aimé. On est sur
Attention Suspense.
Jack London, Martin Eden. Non, je ne l'ai pas lu.
Ah, il y a de la chance, Valentin.
Un marin de 20 ans issu des quartiers pauvres d'Auckland décide de se cultiver pour faire la conquête d'une jeune bourgeoise. Il se met à écrire et devient un auteur à succès. Tiens. Mais l'embourgeoisement ne lui réussit pas. Très bien, eh bien je lirai les deux et je reviendrai vous en parler.
Tu me diras ce qu'on a pensé.
Avec grand plaisir. Non, super, merci beaucoup pour ce petit cadeau.
Avec
merci
plaisir.
À toi d'être
merci
venu.
D'être venu.
C'était
sachant
vrai.
Que le temps est précieux pour toi.
C'est vrai.
On est très content d'avoir pu discuter avec toi. Merci.
Bah, merci beaucoup.
Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode numéro 6. C'est déjà le 6ème, ça passe super vite. On a adoré la discussion avec Alexis et on a hâte de vous partager l'épisode numéro 7 dès lundi prochain.
Si vous voulez nous aider, on sera ravis d'avoir une note de votre part sur Apple Podcast ou iTunes.
Ouais.
Voilà, un petit abonnement sur Spotify aussi peut nous aider. Parlez-en autour de vous, on essaie de faire des interviews qui s'améliorent de semaine en semaine. Ça progresse et on est super content des invités. Et voilà, à lundi prochain.
À lundi, merci beaucoup.